grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Il y a quelques semaines, nous avons consacré une émission au documentaire Sugarland qui a raconté l'omniprésence des sucres cachés dans notre alimentation. Et devant le nombre très élevé de questions, nous avons décidé de vous proposer une nouvelle émission sur le sucre et les édulcorants. Quelles sont les différentes sortes de sucres? Le miel ou le sirop d'agave sont-ils vraiment bénéfiques et préférables? Faut-il se méfier du fructose, des fruits frais? Pourquoi l'industrie agroalimentaire gaffe-t-elle de sucre ses produits ultra transformés? Faut-il bannir l'aspartame ou le sucralose? Quels sont les effets du sucre sur notre cerveau, notre peau ou nos intestins? Pour répondre à vos questions ce matin, au 01 45 24 7000, le diabétologue et ingénieur Reginald Allouche, le chercheur en nutrition Anthony Fardet, la journaliste Danielle Jerkens qui a publié Zéro Sucre, et avec nous, comme chaque lundi, Aline Perraudin de Santé Magazine. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Aline.
Dans votre petite philosophie de la vie quotidienne, il sera question d'un morceau de sucre qui fond dans le café.
Oui, qui fond dans le café ou dans un verre d'eau, c'est une petite expérience proposée par Bergson et ça va nous permettre de mieux comprendre le passage du temps.
Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour.
Vous avez un petit truc pour pas savonner là depuis tout à l'heure, j'arrive pas. Alors Thierry Lhermitte, vous êtes ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale que l'on retrouve tous les mois dans Grand Bien Vous Fasse. Vous avez visité le laboratoire de recherche du psychiatre David Cohen.
Oui, qui travaille sur les adolescents borderline.
À tout à l'heure Thierry Lhermitte, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
Bonjour à tous nos invités, docteur Reginald Allouche. Je rappelle que vous avez publié La méthode anti-diabète, disponible en poche chez J'ai lu. Question simple, comment définir le sucre qui appartient à la famille des glucides? Il vaut mieux parler du sucre ou des sucres?
Je crois qu'il faut parler, essentiellement des sucres. Et je voudrais dire qu'en fait, le sucre est très très nouveau pour notre génome. C'est quelque chose qui est apparu en masse au début du siècle, du 20e siècle. Et en fait, on n'était pas vraiment préparé à ça. Je pense qu'il y a eu un appel après la Deuxième Guerre mondiale où en fait, les gens manquaient de tout, de sucre, de farine, de viande. Et comme l'agriculture s'est beaucoup développée et les industriels ont mis à disposition à pas cher ces éléments, en fait, le sucre, qui est un additif alimentaire, est devenu un élément pratiquement courant dans tous les aliments. Alors, il y a plusieurs types de sucres. Il y a effectivement les sucres classiques comme le qui poussent en fait, qui viennent de la betterave ou de la canne à sucre, le saccharose.
Les sucres simples.
Les sucres simples, exactement. Vous avez le fructose qui est issu des fruits, qui est utilisé aujourd'hui de façon industrielle et qu'on ne trouve que dans le fruit. C'est pour ça d'ailleurs un petit conseil, il vaut mieux croquer les fruits que les boire. Donc parce que le fructose n'a pas exactement le même métabolisme que le glucose. Et puis vous avez ce qu'on appelle les autres édulcorants, parce que le sucre est un édulcorant, ce qui sert à donner le goût sucré. Et dans les édulcorants, vous avez les édulcorants de charge, qui permettent de charger un petit peu pour avoir un goût sucré, et dont les grands représentants sont les polyols, en fait, qui viennent des assemblages sucrés d'alcool, et qu'on trouve beaucoup dans les chewing-gums, dans certaines boissons. Et puis vous avez les édulcorants de synthèse qui ont un très très fort pouvoir sucrant. Si le sucre c'est 1, les édulcorants de synthèse donnent des valeurs de 300, 400, parfois 2000, et vous donnent le goût sucré sans les calories. Ça c'est ce qui est en fait dit par les industriels.
Mais de façon schématique, on parle de sucre simple et de sucre complexe. Danielle Jerkens, je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Elle et que vous avez publié Zéro Sucre, disponible en poche chez J'ai lu.
Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle les sucres complexes, dit également sucre lent, qui sont les amidons qu'on retrouve dans les céréales et les légumineuses et qui apportent énormément de glucose. Or, c'est le glucose qui est le carburant de l'organisme. Et on a besoin du glucose pour vivre. Donc, soit ce glucose arrive à travers les céréales, les légumineuses, et c'est l'origine principale du glucose depuis, l'apparition de l'être humain. Et il y a le sucre rapide qui peut également être utilisé et qui, lui, comme l'a dit le docteur Allouche, est beaucoup plus récent. Moi, c'est vrai que je me pose toujours la question, nos organismes, à tous, sont les mêmes que ceux d'un homme de l'Antiquité ou du Paléolithique. Et aujourd'hui, ce que nous mangeons est complètement différent. Donc, c'est un petit peu comme si on décidait de mettre du diesel dans une voiture essence et qu'elle arrivait quand même à avancer.
Oui, je crois effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas préparé. Peut-être qu'on sera préparé dans 2000, 3000 ans, mais enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. On est plutôt les enfants des survivants, de ceux qui ont réussi à stocker et ont eu une descendance. Aujourd'hui, on est devant le trop et on sait pas vraiment faire. Moi, j'ai peut-être une analogie entre le sucre et le piment, par exemple. Est-ce que il vous viendrait à l'idée de mettre beaucoup de piment dans vos plats? À un moment, ça n'a plus de goût.
Moi, et oui.
Vous auriez même. Oui, non, mais enfin, moi aussi. Hein, c'est pour ça que je prends le piment.
Moi,
c'est très ethnique de ma part.
Ça peut être mauvais pour l'estomac quand on a trop.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, le sucre, ayez ça dans la tête, ayez le piment dans la tête, parce que est-ce que vous allez mettre du piment partout? Eh bien, le sucre, c'est la même chose. Hein.
Oui, mais on met parfois beaucoup trop de sel. Hein, on met beaucoup trop de sel et c'est un peu pareil. Hein,
exactement. Donc.
Alors, saccharose, lactose, maltose, amidon, est-ce que quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair, Réginald Dallouche?
Écoutez, le saccharose, c'est issu de la canne à sucre et de la betterave à sucre. Hein. Vous savez, après le blocus pour Napoléon, les Anglais ont bloqué nos apports de sucre de canne à sucre. On a fait de la betterave à sucre. Et en fait, donc ça, c'est le gros, c'est celui que vous trouvez en carré de sucre ou en poudre. Puis vous avez le fructose qui est utilisé, qui est extrait des fruits et qu'on utilise maintenant comme édulcorant dans des boissons gazeuses ou qu'on ajoute aussi dans des plats. Alors le fructose, il est particulier. Parce qu'autant le saccharose, c'est une molécule de glucose, c'est-à-dire, comme l'a dit Mme Jerkens, le carburant de l'organisme, avec du fructose. Le problème, donc c'est moitié-moitié. Le fructose, c'est que du fructose. Et le problème, c'est que le fructose, il n'est pas métabolisé par toutes les cellules de votre organisme. Il est métabolisé uniquement par le foie. Mmh. Et quand le foie métabolise le fructose, eh ben, ça lui fait beaucoup de travail enzymatique. Et pendant ce temps, il va les stocker sous forme de gras et ça fait le foie gras. C'est comme ça qu'on fait le foie gras.
Les abominables graisses.
Anthony Fardet, vous avez préfacé « Sucre, l'amère vérité » du médecin américain Robert Lustig. Vous êtes en duplex de France Bleu Auvergne. Les industriels adorent le sucre, mais ils sont assez cachotiers. Ils n'utilisent pas forcément le mot « sucre » dans la liste des ingrédients. Le sucre se cache sous de nombreux masques. En général, quand un ingrédient se termine en « ose », c'est qu'il y a du sucre dans l'air. Hein.
Oui, alors en fait, il faut savoir qu'il y a au moins trois plats préparés sur quatre qui contient des sucres ajoutés. À peu près. On trouve des sucres type sirop de glucose, sucre inverti, sirop de glucose fructose. Et il faut savoir que le fructose ajouté dans ces plats et ces aliments très transformés est issu de l'hydrolyse du maïs, c'est pas du fructose de fruits. Et donc, quand vous les consommez au sein de ces aliments très raffinés, très transformés, vous n'apportez pas les fibres, les minéraux, les vitamines que vous avez en consommant le fructose du fruit entier. Et en plus, le fruit entier est rassasiant. Donc il faut bien, je pense, prendre en compte, pour ces sucres simples, l'environnement dans l'aliment. Mmh. Par quel aliment il est apporté. Et ça, c'est très important, parce que 5 grammes de fructose industriel issu de l'hydrolyse du maïs n'a pas le même effet sur la santé que 5 grammes de fructose issu d'un fruit entier, qui va être libéré plus lentement, apporter des minéraux, des vitamines et des fibres. Donc je pense qu'il faut aussi raisonner en termes de degré de transformation des aliments et quelle est la matrice alimentaire qui apporte ces sucres.
Daniel Jerkens, dans votre ouvrage, page 45, une liste impressionnante de sucres utilisés par les industriels. Hein. Sirop d'amidon, extrait de malt, dextrine...
Oui, de mémoire, c'est à peu près une cinquantaine de variantes de noms possibles. Et c'est vrai que lorsqu'on connaît un petit peu cette liste et qu'on regarde de près les listes d'ingrédients, on s'aperçoit que dans un même aliment, vous pouvez avoir 2, 3, 4 types de sucres différents qui sont ajoutés. Donc c'est... Je pense que pour un industriel, le sucre, c'est un petit peu une molécule miracle, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est un conservateur pour l'aliment, c'est un édulcorant, ça donne du goût, c'est un stabilisant, c'est un exhausteur de goût, ça donne l'assurance que le consommateur va aimer le produit, même s'il est salé et même s'il ne le perçoit pas le sucré au moment où il le mange, parce que ça va augmenter la glycémie dans le sang, ce qui va produire de la dopamine dans le cerveau. Et donc une sensation de plaisir, d'envie. Donc c'est vraiment, je pense que c'est très complexe de demander aux industriels d'auto-gérer cette utilisation du sucre. D'où cette tentation également de multiplier les origines de sucre dans les produits.
Anthony Fardet, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Le sucre a différentes fonctions, comme ça a bien été expliqué. C'est aussi des raisons de coût. Il est moins cher d'utiliser un sirop de glucose fructose qu'un sucre de table. Par exemple, il y a des glaces à la vanille qui ont 4 sucres différents. Lactose, sirop de glucose fructose, sucre de table, sachant que le sucre peut aussi donner de l'onctuosité au produit. Donc effectivement, on s'interroge sur une telle quantité de sucres différents.
Mais il faut un doctorat en biochimie pour décrypter les étiquettes de ces produits ultra transformés.
Oui et non. Enfin, moi, j'ai pas personnellement aucun doctorat en biochimie. j'ai même pas un deug en biochimie. Je pense qu'il faut d'abord s'y intéresser. Il faut s'y intéresser et il faut apprendre quelques notions essentielles. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui se termine en ose, a priori, c'est une famille au sens large de sucre. Je pense qu'il y a quelques noms au-delà des terminaisons en ose, qu'il est bon de connaître.
Par exemple.
Et puis, le maltitol. Alors, toutes les terminaisons en ol, ce sont des polyols. Alors, vous me direz, les polyols ne sont pas digestibles. Et d'ailleurs, si on en mange trop, on se transforme en gazoduc. ça se passe assez mal. Mais ceci dit, il y a d'autres produits. Beaucoup de sirops, par exemple, qui sont en fait des sucres. Certaines terminaisons, par exemple la mélasse, l'amidon modifié, l'extrait de malt, tout ça sont des sucres. La deuxième chose à faire, c'est de regarder les tableaux. Les tableaux nutritionnels ne sont pas là juste pour faire joli. Il y a vraiment des informations dedans. Il y a d'ailleurs toujours une ligne sucre, dont sucre ajouté. Donc ça, c'est quand même important.
Ça, c'est la ligne la plus importante.
À mon sens, c'est vraiment une des lignes les plus importantes. Et lorsqu'il y a également la liste des ingrédients, il ne faut pas oublier que l'obligation légale, c'est de donner les ingrédients dans l'ordre d'importance. Et lorsqu'on voit arriver des sucres dans les deuxième ou troisième position, ça pose question. Évidemment, lorsqu'on mange un bonbon, on se doute bien que le sucre va être en pole position. Mais lorsqu'on mange un produit dans lequel, a priori, il ne devrait pas y avoir du sucre ou peu de sucre, si ça arrive dans les deux, trois premières positions, ça pose question. Voilà. Il faut consacrer un peu d'énergie et de temps à ça.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur le sucre et les édulcorants au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de notre émission. Alexia Rivière, Claire Destacan, Chloé Loribot et Manon Rax m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi je pense à la framarabarababa cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, semble compromis. Moi, j'entends la framarabarababa cavalerie. Moi, je pense à la framarabarababa cavalerie. Un jour, je prendrai la route, mais aille coûte que coûte, je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage, et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Moi, je pense à la ramarabarababa cavalerie. Moi, je pense à la ramarabarababa cavalerie.
Ça vous rappelle plein de souvenirs, ça, Thierry Lhermitte. Hein,
oui, puis je remarque que c'est pas démodé.
Oui, Julien Clerc, La Cavalerie, c'est sorti en 1968 et cette semaine sur France Inter, c'est une semaine spéciale mai 68.
Grand bien vous fasse.
Mais qu'est-ce qu'il a? Il est malade?
Vous savez, moi je suis médecin à la radio. Alors il y a combien? 15 ans que j'ai pas vu de malade.
Sur France Inter.
Et ce matin, nous attendons toutes vos questions sur le sucre et les édulcorants au 01 45 24 7000. Pour vous répondre à vos interrogations, le diabétologue Réginald Dallouche, le chercheur en nutrition Anthony Fardet et la journaliste Danielle Gerkens. Alors, pourquoi éprouvons-nous une forte envie de sucre quand il fait froid en ce moment, hein? Comment on explique ça, Réginald Dallouche, cette forte envie de sucrer là quand il fait froid?
Parce que le sucre, c'est l'énergie. Et qu'en fait, encore une fois, nous sommes des survivants. Et que les survivants, eh bien, pour survivre, ils vont chercher à avoir de l'énergie pas chère, pas trop compliqué, où il n'y a pas de, où il n'y a pas de, d'ennemis autour de l'arbre et du figuier, parce qu'on s'est battu pour un figuier au début de l'été, et donc on a ces réflexes ancrés dans notre génome, c'est il fait froid, et ben il faut que je mange, il faut que je me nourrisse parce que je peux mourir. En fait, il faut bien comprendre que dans notre cerveau, il y a trois étages. Il y a un étage qui est la conscience, le cortex frontal, les sentiments, la foi, l'amour, les souvenirs, et puis vous avez en dessous un étage qui est le système de récompense, qui lui, en fait, règle notre vie de façon presque inconsciente. Il adore l'alcool, il adore le tuer fumé, il adore le sucre, il adore le sexe, il adore tout ça. Et si d'ailleurs on devient mono-plaisir, on peut avoir quelques troubles sociaux. Et donc, en fait, ce niveau qu'on appelle le niveau de système de récompense, il a un nom affreux qui s'appelle le noyau accumbens, pour ceux qui ont envie d'aller regarder sur Internet. Et celui-là, vraiment, il est très puissant, mais il est juste sous la conscience. Et puis, en dessous, vous avez un noyau qui est, enfin, vous avez l'hypothalamus, et dans cet hypothalamus, vous avez un noyau qui est le noyau arché, qui est très, très, très fruste, qui est très archaïque, qu'on partage avec tous les animaux de la Terre, et dans ce noyau, il y a la survie. Et ce noyau-là, ce qu'il veut, lui, c'est avoir le nombre de calories. Donc, quand on prend un édulcorant, par exemple, que vous allez avaler un édulcorant, vous avez des capteurs sur le bout de la langue, vous en avez à peu près 12 000, ils vont trouver, effectivement, qu'il y a un goût sucré. Ces capteurs sont liés directement au système de récompense par un nerf, peu importe le glossopharyngien, et à ce moment-là, le système de récompense va faire de la dopamine, oh, lui, il est satisfait. Mais alors, celui qui est en dessous, celui de la survie, il comprend pas. Il dit, le patron là-haut, eh bien, lui, il est content, mais moi, j'ai pas mes calories. Donc, en fait, il y a un effet un peu rebond, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à aller chercher les calories, quelles qu'elles soient, ça peut être des sucres, des graisses ou des protéines, dans le repas suivant. Et en fait, tout le problème du sucre et des édulcorants, on parlera de la toxicité après, éventuellement, mais Tout le problème, c'est qu'en fait, vous avez une espèce de combat au sein de votre cerveau entre le plaisir et la nécessité. Et c'est comme ça, au bout de quelques années, qu'on peut avoir de vrais troubles.
Question par courriel, comment expliquer le coup de pompe vers 11h, Daniel Jerkens?
C'est très simple, quand on mange sucré au petit déjeuner, on fait monter sa glycémie très rapidement, l'organisme perçoit qu'il y a trop de sucre dans le sang, donc il fait lâcher de l'insuline par le pancréas, qui va donner l'ordre aux cellules d'absorber ce glucose. Si votre glycémie est très très haute, il va lâcher beaucoup d'insuline, donc votre glycémie va redescendre très vite, et elle va descendre sous la moyenne, et donc vers 1h30, 2h, 3h plus tard, ça dépend des gens, vous allez vous retrouver en sous-glycémie, donc ce côté coup de pompe, donc ces sensations de fatigue, et donc cette envie de très 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 vite manger quelque chose qui va vous faire remonter. Et curieusement, vous ne vous jetez pas sur un avocat, vous vous jetez sur un Mars.
Thierry Lhermitte, vous connaissez ce coup de pompe de 11h?
Moi, je mange que des fruits le matin, mais néanmoins, c'est beaucoup de sucre.
Mais ce sont des fibres.
Oui, avec des fibres, je mange.
Donc c'est pas la même digestion.
Je rajoute jamais de sucre. C'est moi, c'est la flemme qui m'a fait arrêter.
Voilà. Donc le meilleur moyen de pas avoir la flemme, de pas avoir le coup de pompe à 11h, c'est de manger salé au petit déjeuner.
Enfin, je voudrais quand même parler de l'inégalité génétique quand je vois Thierry Lhermitte. Parce qu'il peut manger du sucre, il peut manger tout ce qu'il veut, il est quand même voilà.
C'est pas donc, comme vous.
Hein,
c'est,
voilà. Alors que d'autres n'ont pas les mêmes axes génétiques.
Anthony Fardet en duplex de France Bleu Auvergne.
Oui. Oui, je souhaitais intervenir par rapport au coup de pompe de 11h parce que c'est une question très importante. Parce que on a tendance à donner aux enfants le matin des céréales du petit déjeuner qui sont souvent tous très ultra transformés, très riches en sucres rapides. Même si c'est des sucres complexes, ils peuvent être très rapides s'ils sont raffinés et déstructurés. Parce qu'il faut bien savoir que l'amidon et les féculents donnent du glucose. Donc en fait, le petit déjeuner, tous ces céréales du petit déjeuner pour enfants, ça revient presque au même que de donner des confiseries tellement c'est riche en sucres rapides. Et donc c'est pas étonnant qu'il y ait un coup de pompe à 11h. Donc pour ceux qui veulent manger, je dirais, des sucres le matin, il faut aller vers des sucres complexes mais lents, qu'on peut trouver dans les muesli non croustillants, les flocons d'avoine ou de maïs sans sucre ajouté, et à nous d'ajouter le sucre qu'on veut éventuellement. Donc c'est quand même très important de porter ce message que la plupart des céréales du petit déjeuner pour enfants le matin sont des produits très 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 transformés.
Oui, c'est l'équivalent d'un demi-bol de sucre.
Voilà, donc on donne des confiseries à nos enfants le matin et il faut vraiment arrêter, quoi.
Et on pense bien faire.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une notion importante qui vient d'être soulevée, c'est la notion d'index glycémique. C'est-à-dire que tous les sucres n'ont pas le même effet.
Alors c'est quoi un index glycémique et c'est quoi la différence avec la charge glycémique?
Tout à fait. Alors ça, c'est en fait, l'index glycémique, qu'est-ce que c'est? C'est une échelle qui va de 0 à 100. On a mis à 100 le glucose, c'est-à-dire celui qui a un effet le plus fort sur la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui va faire entrer le sucre dans les cellules, comme une espèce de clé dans les serrures. Et alors vous avez, donc on a testé en fait la plupart des produits, et pour vous donner une référence, il faudrait utiliser en gros tous les jours des produits avec un index glycémique inférieur à 55. Les tables existent sur internet, et vous avez par exemple le point le plus important, vous prenez des pâtes. Si vous les cuisez trop, si vous mangez des nouilles, l'index glycémique est à 80. Si vous les faites al dente, comme les Italiens, c'est à 50-55. Donc en fait, la cuisson modifie aussi la structure. D'ailleurs, les pâtes, si elles sont trop cuites, vous allez louper, mettez-les au frigo. Vous allez avoir une rétro-mélisation de l'amidon, et donc vous aurez un index qui aura baissé.
Et la charge glycémique, c'est quoi, Daniel Jerkens?
Alors, je préfère que...
La charge glycémique, c'est tout simple, parce qu'en fait, il y a une vraie polémique autour des index glycémiques. Moi, à titre personnel, j'ai interpellé la communauté européenne là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas, on n'inscrit pas l'index glycémique, une fois et pour toutes, sur les produits? Alors, on vous répond, ah oui, il y a beaucoup de... C'est vrai, il y a des intérêts, mais il n'y a pas la charge glycémique. Qu'est-ce que c'est la charge glycémique? C'est qu'on prend l'index glycémique et on multiplie par la quantité. Vous comprenez bien que si vous mangez un dé à coudre de grosses nouilles et que vous mangez trois pâtés de pâtes al dente, bah vous aurez une charge différente. En fait, la charge, c'est l'index, c'est tout bête, multiplié par la quantité.
Et puis après, se pose la question de ce avec quoi on mange. Parce que si on mange des pâtes al dente, mais qu'avec cela, il y a du ketchup, ça ne donnera pas le même effet que si on mange les pâtes al dente avec des légumes, toutes pleines de légumes qui soient juste une sauce aux légumes.
Le gras aussi. Fait baisser l'index
typiquement.
Mais le problème, c'est le fructose quand même, qui a un index glycémique bas et qui pose problème.
Ah oui, mais le fructose, c'est le cheval de Troie. Il a un index glycémique bas. D'ailleurs, en Allemagne, pendant des années, entre les années 70 et 95, on disait que c'était bon pour les diabétiques parce qu'il y avait un index bas.
En mangeait des quantités industrielles.
Alors que le fructose, malheureusement, et je pense que l'organe principal de beaucoup de problèmes métaboliques, c'est le foie. Et le foie, il aime pas le fructose parce que ça lui demande un travail dingue. Il peut pas gérer les graisses. Il stocke le fructose sous forme de graisse. On fait du foie gras. Je vous rappelle que pour faire du foie gras, on gave des oies avec du fructose, du maïs. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour les édulcorants, parce qu'on parle des sucres, mais on parle aussi des édulcorants. Les édulcorants, il est évident que si on suit les recommandations européennes, on n'aura pas de problème sur les doses, que ce soit 40 mg par kilo pour l'aspartame. Le problème, c'est l'accumulation à terme et son impact sur le foie.
Anthony Fardet.
Oui, vous avez un peu répondu à la question et je pense que c'est un point très important à souligner pour les gens. C'est vrai que l'index glycémique peut être un reflet de l'état de déstructuration de l'aliment et du degré de gélatinisation de l'amidon dans les féculents. Mais il faut savoir que l'index glycémique du fructose est très bas, il est en dessous de 20 parce qu'il est métabolisé par le foie. Donc ça peut être très trompeur. Vous pouvez avoir des sodas comme par exemple aux États-Unis, ils utilisent beaucoup le sirop de fructose. Hein. Et donc on peut avoir des index glycémiques très bas mais qui ne signifient pas aliment bon pour la santé puisqu'ils vont consommer beaucoup de fructose. Il y a beaucoup de stéatose hépatique aux États-Unis à cause de ça d'ailleurs. Et après ça peut faire une insulino-résistance hépatique, ça peut brouiller le signal de la leptine de la satiété. Donc vous voyez, l'index glycémique, il faut bien voir quand même à quoi ça correspond. Et vous avez par exemple des produits qui ont des index glycémiques très bas, mais qu'il faut consommer avec modération.
Oui, d'ailleurs, pour vous donner une idée de la dangerosité de ces produits, en Europe, aux États-Unis et même en Europe aujourd'hui, la deuxième cause de grève du foie, aujourd'hui dans les services hépatiques, ce sont des problèmes de surconsommation, notamment de boissons sucrées, qui causent des problèmes de foie gras colossaux et qui nécessitent...
Le fameux NASH.
Et qui nécessite des grèves du foie. Donc c'est quand même complètement dingue.
Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Vous appelez de Lyon, on attend votre question avec impatience.
Alors bon, les dernières infos m'ont un peu répondu à ma question. Par contre, j'ai envie de poser celle-là. À quand les index glycémiques publiés sur les emballages et compagnie?
Régional Dallouche.
Alors écoutez, ça c'est une vraie polémique. Moi je me pose la question de savoir pourquoi ça n'existe pas. Parce que même si l'index glycémique peut être combattu, et comme l'a dit notre collègue concernant le fait que le fructose est un cheval de Troie et qu'il a un index glycémique bas, je pense que les consommateurs auraient intérêt à savoir que ce qu'ils avalent a comme impact sur leur métabolisme.
Alors, ceci étant, il faut aussi savoir que la plus grosse bataille de lobbying qui a été menée jusqu'à présent au niveau de la Commission européenne, justement, relevait de tout ce qui était étiquetage alimentaire, etc. Le lobby de l'alimentaire, de l'industrie agroalimentaire, est le plus puissant qui soit en Europe. Et même en France, chaque village, chaque département, chaque ville a une industrie agroalimentaire, que ça aille du fabricant de pâté à l'énorme usine de transformation. Et donc il y a une vraie résistance, il y a énormément de questions autour de l'étiquetage et je pense que pour arriver à un consensus dans l'intérêt des consommateurs, et non pas dans l'intérêt de l'agro-industrie, c'est extrêmement complexe. Et pour l'instant, l'Europe est assez frileuse.
Merci beaucoup Jean-Christophe pour votre question, Thierry Lhermitte.
Ah, moi j'ai un conseil de flemmard. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté il y a 30 ans le sucre rajouté, parce que ça m'énervait d'amener une petite cuillère, le sucrier, et ensuite de nettoyer la tasse qui était pleine de sucre.
Gaston Lagaffe sort de voilà. ce corps.
J'ai arrêté le sucre, et du coup,
et
bah, je n'amène
beau,
plus ma tasse de café. Et ça se nettoie très facilement. Voilà. Et du coup, et on retrouve le goût du café,
l'acidité. Le conseil du jour de Thierry Lhermitte. Allez, il est temps de retrouver la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Pour tout ce qui est sucre, c'est moi l'expert. Chronicle, le festival, la fameuse tarte à la crème. J'étais là. Et pique-nique royal. J'étais là. Oh la reine. Et les petits fours. Les petits fours exceptionnels. Et sur la lune. J'étais là.
Thibaut de Saint-Maurice, cette semaine dans votre petite philosophie de la vie quotidienne, réflexion sur le sucre que l'on plonge dans son café.
Oui, Ali, parce que comme on vient de l'entendre, donc dans cette fameuse publicité qui fait un peu mal aux oreilles pour le sucre réalisé donc par Jean-Paul Goude, eh ben en fait le sucre il est toujours là. On l'a dit aussi depuis le début de l'émission, à nous accompagner dans notre vie. Le sucre, qu'il soit en poudre ou en morceaux, accompagne notre vie quotidienne. Et cette présence-là, en fait, elle n'est pas anodine. Alors, bien sûr, nous mettons du sucre dans notre café le matin ou dans un yaourt ou sur des fraises quand on n'est pas trop flemmard. Parce que nous en aimons la saveur. Et bien sûr, le sucre, donc, c'est d'abord une question de goût. Mais pas seulement. Parce que si on le regarde bien, si on prend le temps de penser ce qui se passe quand nous mettons du sucre, nous pouvons mieux comprendre notre rapport au temps. Au temps qui passe, justement, qui s'écoule, au temps qui dure à travers tout ce qui existe.
Alors, vous voulez dire que l'on peut faire de la métaphysique avec un morceau de sucre?
Oui, alors voilà, c'est la proposition de ce matin, cet petit exercice. Alors, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le philosophe Henri Bergson qui nous y invite en prenant lui-même l'exemple tout simple d'un morceau de sucre que l'on met dans un verre d'eau. Bergson dit « Si j'ai envie d'un verre d'eau sucrée, il faut bien que j'attende que le sucre fonde. Et le temps que met le sucre à fondre, eh bien, c'est un temps absolu, indivisible, continu. Le morceau de sucre ou bien a fondu ou bien n'a pas encore fondu. Ce temps-là n'est donc plus du temps, mais, nous dit Bergson, une durée concrète, continue et inventive. En fait, Bergson se sert de cet exemple tout simple, donc un morceau de sucre qui fond, pour distinguer entre le temps et la durée. Le temps, alors c'est facile, hein, c'est le temps qui est le même pour tout le monde, c'est le temps objectif des secondes et des minutes, c'est le temps de l'horloge, divisible et homogène.
Alors que la durée, elle, varie selon les personnes et les circonstances.
Bah exactement, on a tous fait l'expérience. Par exemple, les 3 minutes qui précèdent l'annonce d'un résultat, par exemple la nomination au César ou quoi, ça peut nous paraître durer très longtemps. Alors que les mêmes 3 minutes qui vous restent pour dire au revoir à votre amoureuse ou votre amoureux avant que le train ne parte sur le quai, ça vous paraît durer très très peu de temps. La durée, c'est du temps, mais c'est le temps en nous, c'est le temps intime, c'est le passage ou l'écoulement du réel. Et la durée passe plus ou moins vite selon que l'on est pressé ou pas, selon que l'on est joyeux ou pas. Bref, la durée n'est jamais la même, alors que le temps, lui, est toujours le même. Alors la métaphore du morceau de sucre, pour Bergson, elle est essentielle parce qu'elle nous permet de comprendre que les choses elles-mêmes ont une durée propre. Les choses elles-mêmes s'inscrivent dans un écoulement continu, comme quand vous mettez donc du sucre dans le yaourt et que vous attendez que tout le petit lait soit remonté dans le sucre. Voilà, ça amuse beaucoup mes enfants. Si nous ne voyons le temps que comme des secondes et des minutes que l'on peut calculer, alors en fait nous ne voyons pas le temps lui-même. Et si nous voulons vraiment faire l'expérience du temps, il faut aussi faire l'expérience de son passage, de son écoulement, c'est-à-dire de sa durée. Et nous en avons l'occasion à chaque fois finalement que nous mettons du sucre quelque part, dans le café, dans le thé ou sur les fraises.
La petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, vous Thierry Lhermitte, vous ne pouvez pas la faire, cette expérience, vous ne rajoutez pas de sucre
non,
dans votre
jamais.
Café. Bon, ben voilà.
Faudra lire Bergson
alors. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice. Dans un instant, nos invités nous diront s'il vaut mieux remplacer le carré de sucre dans son café par un édulcorant. Nous attendons toutes vos questions sur le sucre et les édulcorants au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de l'émission.
Échec et mat sous la pluie.
L'impératrice interprétée Erreur 404.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Grand bien vous fasse.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
Sur France Inter.
11h20 et ce matin, nous attendons toutes vos questions sur le sucre et les édulcorants au 01 45 24 7000. Pour répondre à vos questions, le diabétologue Réginald Alouche, le chercheur en nutrition Anthony Fardet et la journaliste Danielle Gerkens.
Mesdames et messieurs, jeunes gens, jeunes filles, laissez-moi vous présenter la famille des sucres. Lorsque nous mangeons certains aliments, ils obéissent à certaines règles. Ils se dégradent en glucose, que notre corps utilise comme carburant. Pain, pâtes, légumes et céréales se transforment tous en glucose. Afin d'alimenter notre cerveau, mais aussi nos cellules et nos organes. Sans le glucose, vous n'existeriez même pas. Vient ensuite le lactose, qui est doux comme de la soie. C'est le premier sucre absorbé par les mammifères via le lait de leur mère. On le trouve dans le fromage, le lait et dans les yaourts aussi. Mais attention, si vous êtes intolérant, vous pourriez foncer aux toilettes. Et enfin, le saccharose est le sucre qui engendre tant de polémiques. Certains le désignent comme dangereux, tandis que d'autres ont encore des doutes. Le saccharose est le sucre de table qu'on met dans le café ou dans le thé. Dans la famille des sucres, c'est la gentille petite fille. Pas si gentille que ça, paraît-il.
Extrait du documentaire Sugarland en 2018. Alors, beaucoup de questions sur les qualités nutritionnelles de différentes sortes de sucres. Bonjour Marie.
Bonjour.
On attend votre question.
Voilà, je voulais savoir si le sucre de fleur de coco était intéressant, s'il avait un indice glycémique bas, et si on pouvait l'utiliser à la place du sucre pour quelqu'un qui est diabétique.
Danielle Gerkens.
Alors, il est intéressant parce qu'effectivement, il a un indice glycémique bas, il a un goût qui est assez agréable et qui est assez, assez fort. Donc souvent, on en met un petit peu moins, on en met moins que du sucre du saccharose. Et c'est également un sucre qu'on peut chauffer, donc ça peut être intéressant également pour la cuisine. Est-ce qu'il est à recommander pour les diabétiques? Il est forcément plus intéressant que le saccharose. Ou même le fructose, puisqu'il n'y a pas ce problème de triglycérides derrière. Mais de manière générale, je pense qu'il est, y compris quand on est diabétique, il est bon d'essayer de désucrer un peu son palais.
Qu'en pense le docteur Réginald Dalouche?
Moi, je crois que c'est, on est au cœur du problème. Faut-il mettre du sucre dans le yaourt pour nos enfants? Moi, j'ai des petits-enfants, ils mangent leur yaourt nature, et ils adorent ça, ils en prennent. Le sucre, en fait, c'est vraiment l'effet collatéral, l'effet secondaire de la Deuxième Guerre mondiale. Je tiens à le dire, parce qu'en fait, c'est générationnel. Moi, ma grand-mère adorait le sucre, elle en mettait partout, et donc, elle a contribué, en fait, à changer le niveau de référence. Et tout le monde a ce niveau de référence aujourd'hui. Il faut le baisser,
mais
absolument.
Mais quand on confectionne une pâtisserie, il vaut mieux utiliser du sucre blanc ou du sucre de coco?
Bah, vu le coup, si vous voulez faire de la pâtisserie tous les jours au sucre de coco, ça va être un petit peu onéreux. C'est peut-être un bon moyen de baisser.
Et le sucre complet, le rapadura, c'est mieux que le sucre blanc
le sucre complet, il y a un petit peu de minéraux, il y a un petit peu de vitamines, mais enfin, c'est vraiment infinitésimal. Je crois que ce sont des différences. C'est comme le sucre roux. Bon, c'est plus sympa, c'est plus naturel, mais au fond, c'est exactement la même chose que du sucre en poudre.
Alors, ça a un goût un peu plus fort, donc ça peut baisser... Ça peut-être contribuer à baisser un petit peu parce que le goût est plus fort, mais c'est vrai que ça reste du sucre. C'est complètement marginal, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de 0,1% de différence. C'est de l'argument marketing.
Merci Marie pour votre question. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Écoutez, je suis un sportif, je fais pas mal de courses en montagne, trail, ultra trail, et pour bannir depuis un bout de temps les gels sucrés, je me fais des propres préparations à base notamment de fructose, du sirop d'agave, qui, j'avais vu, c'est un index glycémique bas, donc je voulais savoir si c'était une bonne option, voir ce qu'en pensaient vos invités. Et après, une petite aparté rapidement, même si je suis sportif, je fais pas mal de pâtisserie. Et là, je viens de faire une mousse au chocolat et je divise à chaque fois les quantités de sucre par rapport aux recettes, au moins de 2 ou de 3, parce que c'est astronomique les quantités de sucre qui sont préconisées dans les recettes.
Vous m'envoyez une part, Denis, s'il vous plaît, de mousse au chocolat. Merci. Docteur Alouche.
Alors écoutez, c'est très bien d'abord de diminuer par 2, parce qu'après tout, on s'aperçoit que le goût est parfois plus fort et on achète du chocolat un peu meilleur que le chocolat à pâtisserie.
Et le sirop d'agave, c'est quoi d'ailleurs le sirop d'agave?
Le sirop d'agave, c'est un sirop qui est d'un arbre, d'un petit arbuste, et qui en fait c'est du fructose. Donc c'est vraiment le fructose avec toutes les réserves que je donnais sur le fait que le foie a du mal à le métaboliser. Et d'ailleurs pour les sportifs et pour les gens qui comme vous font du sport, et c'est très bien, et du sport de fond, vous pouvez aussi utiliser les fruits à coque, les noix, les amandes, les pistaches qui donnent de l'énergie, qui donnent pas mal d'énergie, les dattes. Et donc à ce moment-là, vous aurez une source d'énergie peut-être beaucoup plus puissante que celle que vous avez aujourd'hui.
Merci beaucoup Denis pour votre question. Et que pensez du sirop de riz issu de la fermentation du riz brun? C'est très à la mode en ce moment, le sirop de riz.
Alors écoutez, je connais mal ce produit. Je pense qu'il doit s'agir aussi du fructose ou quelque chose approchant.
Moi, je sais que de mémoire, quand j'avais regardé ça, il y a du maltitol naturel. Il y a pas mal de maltitol naturel dans le sirop de riz. Voilà. Et donc, ce qui est un polyol non digestible. Donc moi, j'avais laissé tomber le sirop d'agave justement à cause des réserves sur les quantités de fructose et j'avais utilisé un peu de sirop de riz en me disant, ben voilà, comme il y a une part de maltitol non digestible importante, c'est un petit peu... voilà.
Le problème des polyols, puisque le maltitol en fait partie, vous avez le xylitol, l'érythroxylitol, c'est qu'en fait, ces produits-là sont fermentissibles et qu'en fait, vous allez avoir des gaz et parfois des problèes de transit. Alors, c'est pas facile à utiliser.
Ça peut être clivant socialement.
Ça peut être clivant. Exactement.
Que c'est joliment dit. Question d'Emmanuel sur notre page Facebook. Et le miel dans tout ça?
Écoutez, le miel en petite quantité, c'est très très bien. Sur une tartine de baguette tradition avec un peu de beurre, non salé, c'est parfait le matin. Hein. Le problème, si on en met partout et tout le temps, c'est du fructose. Et donc le fructose, c'est toujours la même chose. Il faut pas sous-estimer le problème de la stéatose hépatique, qu'on appelle aussi la NASH, qui est en augmentation régulière dans nos pays, en Italie particulièrement, un petit peu en France et beaucoup aux États-Unis.
Bonjour Marielle, tiens justement sur le miel, une question.
Oui. Alors justement, le miel, alors j'ai pas entendu votre dernière, ce que vous avez dit en dernier, là, parce que j'étais au téléphone, mais moi je mets du miel sur mon pain avec un petit peu de beurre le matin, mes enfants font pareil, je ne sais pas du tout si je leur donne du sucre à manger, si c'est bon, pas bon pour eux, quel est le pouvoir de ce produit par rapport au sirop d'agave dont j'ai entendu parler là tout de suite. J'aurais voulu que vous me parliez un peu du miel, parce qu'il n'y a pas d'étiquette sur le miel qui dit ce qu'il en est au niveau du sucre, voilà.
En petite quantité, le miel, c'est parfait, c'est génial. Voilà. Vos enfants, vous leur donnez le matin. C'est ce que vous faites est très bien. Et en plus, comme c'est le matin, ils vont brûler, ils vont bouger. Donc, ils vont consommer ce sucre. Et c'est beaucoup mieux que leur donner le soir, par exemple.
Daniel Jerkens.
Pareil. Rigoureusement, même analyse. Mon seul petit conseil, essayez d'acheter du sucre, du miel français.
Et pas bio, si possible.
Bio, c'est encore mieux. Mais déjà du miel français, parce que il y a beaucoup d'importations de miel, notamment de Chine, qui peuvent être un petit peu plus sujets à question, on va dire.
Question de Sarah par courriel. Ma fille prend du chocolat au lait le matin. Qu'est-ce qui est meilleur, 2 cuillères de chocolat en poudre industriel ou 1 cuillère de cacao pur avec 2 cuillères de sucre roux? Elle nous dit que c'est un débat avec ses propres parents.
Écoutez, moi je pense que puisqu'elle aime son chocolat, elle peut peut-être diminuer par 2 le nombre de cuillères de sucre et garder son cacao en poudre. Parce que le cacao en poudre, en fait, il faut savoir que dans le chocolat, il n'y a pas que les tablettes de chocolat, il n'y a pas que le goût sucré. Il y a également, dans le chocolat, il y a des alcaloïdes. On est un peu dépendant au chocolat, vous le savez tous autour de cette table. On a besoin de chocolat, il y a du magnésium, il y a aussi une accoutumance et une toute petite addiction au chocolat. Donc si vous prenez du cacao pur, en poudre, vous avez votre petit plaisir addictif sans le sucre.
Anthony Fardet en duplex de France Bleu Auvergne.
Oui, je voulais un petit peu réagir globalement par rapport à ces dernières questions. Pour insister sur quand même le degré de transformation des aliments, qui est très lié notamment à la nature du sucre. Par exemple, un sirop de glucose fructose est plus transformé qu'un sucre de table ou qu'un miel qui est plus naturel. Donc, par exemple, le miel, vous avez un mélange de glucose, fructose et saccharose, mais vous apportez aussi des minéraux, des vitamines. Donc, c'est important aussi de voir l'origine du sucre, c'est-à-dire quel est le véhicule de ce sucre. Est-ce que l'aliment est très transformé, peu transformé ou pas transformé? C'est pas pareil, par exemple, de consommer un jus de fruit qu'un fruit entier. Ah oui. Pour des raisons de transformation. Ou par exemple les féculents. Des féculents très transformés sont des sucres rapides et des féculents peu transformés peuvent être des sucres lents. Par exemple, une baguette blanche peut très bien être une source de sucre très rapide ou on sait qu'un riz blanc est source de sucre plus rapide qu'un riz brun. Donc le degré de transformation est très important pour évaluer la valeur, je dirais, globale du sucre qui est apporté. Donc il ne faut pas seulement raisonner sucre, mais l'aliment dans sa globalité.
Aline Perraudin de Santé Magazine, beaucoup, beaucoup de questions sur le fait que le sucre fasse grossir. Est-ce qu'un régime sans sucre peut aider à perdre du poids?
Alors, il y a une étude qui a essayé d'analyser les régimes selon qu'on les allège en sucre ou en graisse. Parce que souvent, on se pose la question. C'est une étude qui est parue dans le journal de l'Association médicale américaine et qui a montré, en fait, qu'ils étaient aussi efficaces. Ce sont des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis. Ils ont suivi pendant un an plus de 600 personnes en surpoids ou obèses âgées de 18 à 50 ans. La moitié a été soumise à un régime pauvre en sucre, l'autre à un régime pauvre en graisse. Dans chaque groupe, le niveau d'activité physique était à peu près semblable. Bilan. Au bout d'un an, ceux qui avaient consommé moins de gras ont perdu en moyenne 5,3 kilos et ceux qui ont consommé moins de sucre, 6 kilos. Donc on voit bien que l'on se prive de charcuterie ou de dessert, il n'y a pas de différence marquante dans l'évolution du poids. Cette étude en fait montre que le message le plus important, c'est que pour maigrir, en fait, le pourcentage des calories provenant des graisses ou des glucides n'a aucune importance. En revanche, essentiel a été de veiller à manger plus sainement, notamment en consommant plus de produits frais et d'aliments complets et moins de produits raffinés et industriels. Les participants de l'étude ont d'ailleurs ainsi diminué leur apport calorique en mangeant plus sainement. Donc c'est important et j'ajoute qu'ils n'étaient pas diabétiques, hein, pour le docteur Alouche qui me regarde.
Docteur Alouche, moi je crois qu'il y a un arbitre un peu important et dont on n'a pas encore parlé, c'est la flore bactérienne intestinale. En fait, on commence à mesurer, il y a une étude de l'Institut Weizmann qui a montré que les édulcorants modifiaient fondamentalement la répartition et la constitution de la flore bactérienne intestinale. Et je pense que s'il y a un conseil qu'on peut donner aux auditeurs aujourd'hui, c'est de choisir, quand vous mangez des sucres, mangez-le avec des fibres. C'est donc préférer le fruit frais parce qu'il y a des fibres avec, parce que les fibres vont nourrir la flore bactérienne et donc vont la maintenir en bonne forme. Alors que si vous prenez des ingrédients bruts...
Mais c'est manger moins transformé, en fait.
Exactement, moins transformé, ce que disait notre ami chercheur.
Daniel Jerkens.
Oui, alors moi je voudrais émettre un bémol sur la notion de calorie, parce que je trouve que la notion de calorie, à mon sens, est un peu dépassée. C'est-à-dire que comparer une calorie de sucre ou une calorie d'avocat, par exemple...
C'est pas du tout ce qu'ils ont fait dans l'étude.
Ça n'est pas la même chose. C'est comme parler d'un gramme de plomb et d'un gramme d'amande. Et pour en revenir, effectivement, on n'est pas une machine, on n'est pas un moteur dans lequel on met de l'énergie et ça ressort.
Je vous propose de revenir pour une nouvelle émission consacrée au sucre, parce que j'ai dû zapper la moitié de mes questions. On n'a pas pu prendre tous les auditeurs. Je vous propose de revenir. Merci beaucoup, Réginald Alouche. Je rappelle que vous avez publié La méthode anti-diabète, disponible chez J'ai lu. Chez J'ai lu également Zéro sucre de Daniel Jerkens. Merci, Anthony Fardet. Vous avez publié Halte aux aliments ultra transformés chez Thierry Soucard Édition. Toutes les infos bibliographiques sur le site et l'appli France Inter et sur la page Facebook de notre émission. Tout de suite, l'intervention mensuelle de Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale.
Peur, hein.
Mais c'est une musique issue d'un film de Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox. Vous n'avez pas reconnu. Bon. Alors Thierry Lhermitte, je rappelle donc que vous êtes ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale, que nous soutenons tous les mois. Alors vous avez rendu visite au professeur David Cohen, qui dirige le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est le plus grand service européen de ce type. Ce service prend en charge notamment des jeunes patients atteints de pathologies psychiatriques sévères. Alors avant de s'intéresser à ce projet de recherche, recherche, un mot sur les maladies psychiatriques qui concernent plus d'une personne sur cinq, selon l'Organisation Mondiale de la Santé.
Absolument, et les jeunes en première ligne, parce que les premiers signes apparaissent en général entre 15 et 25 ans. Et aujourd'hui en France, les maladies psychiatriques, c'est le deuxième poste de santé après les maladies cardiovasculaires. C'est énorme. En 2015, c'était pour la Sécu 19 milliards d'euros en coûts directs et 100 milliards en coûts économiques et sociaux. Donc c'était très important. Alors donc la Fondation pour la recherche médicale a mis 4 millions d'euros dans 16 projets, dont le projet du professeur Cohen.
Alors quel est le projet de recherche du professeur David Cohen ?
Son projet, c'est de caractériser les symptômes, la réalité des adolescents borderline.
C'est quoi ?
Voilà. Borderline, c'est une maladie psychiatrique qui vient d'être acceptée pour les adolescents, parce qu'avant ça ne s'adressait qu'aux adultes, et qui est caractérisée par 4 éléments. D'abord, une très forte instabilité émotionnelle, ça veut dire anxiété, dépressivité, irritabilité, une impulsivité avec mise en danger et tentative de suicide, des relations aux autres perturbées, particulièrement grosse peur de l'abandon, et une difficulté à intérioriser ses sentiments, à se remettre en question. Ça veut dire que c'est toujours le sentiment que les problèmes viennent des autres et jamais de soi-même. Ça, c'est les caractéristiques du trouble borderline. Et qu'est-ce qu'on connaît de la maladie ? Ben, pas grand-chose, à vrai dire. Il y a eu peu d'études qui ont été faites là-dessus. On sait qu'en revanche, 2 ans après le diagnostic, la moitié des patients sont encore malades. Facteurs de risque qui sont assez généraux, stress, traumatisme, des histoires familiales compliquées. Mais on ne connaît pas les mécanismes physiologiques de la pathologie. Et le traitement, pour l'instant, c'est la psychothérapie, et c'est tout.
Et sur quoi travaille exactement le docteur David Cohen ?
Alors, l'étude du docteur Cohen, il veut donc caractériser cette population d'adolescents borderline. Les chercheurs pensent qu'il existe chez les patients des modifications de la réponse au stress qui sont présentes dès l'adolescence. Des modifications physiologiques et motrices, ainsi que des modifications au niveau de la structure et du fonctionnement du cerveau. Donc, ils se sont rapprochés d'une équipe d'ingénieurs qui ont mis au point une méthode qui est capable de mesurer la réaction au stress, et donc la réaction excessive au stress. Alors, c'est assez marrant, voilà, c'est la personne qui fait le test est placée dans une petite salle face à un écran et une caméra Kinect. Les caméras, ça c'est les caméras des jeux vidéo.
Qui détectent les mouvements,
voilà, les mouvements du visage, les mouvements du corps. Et puis, des capteurs pour mesurer les paramètres physiologiques, la température, pression artérielle, respiratoire, la transpiration. En gros, il y a 131 paramètres. Toutes ces données sont enregistrées, compilées pendant le test. Et le test, ça consiste à faire des exercices de calcul mental pendant qu'on induit un stress.
J'en suis
incapable. Par exemple, si je vous pose la question, 72 multiplié par 68. Alors, je vais voir votre petit stress.
Transpire.
Voilà, avant que la réponse arrive, 4896, parce qu'en fait, c'est A plus B par A moins B, c'est assez facile à calculer.
Oui, pour vous.
Bon, pour le moment, la méthode a été mise au point sur 25 adolescents dénués de problèmes psychiatriques. Les chercheurs, ils vont recruter 33 patients atteints de troubles borderline et 33 patients sains, à parier, c'est-à-dire même sexe et même âge. Ils vont comparer les données. Et puis en parallèle, il y a un protocole d'imagerie par IRM qui est en cours pour comparer les cerveaux des deux types de populations. Voilà, bon, alors c'est un pas pour arriver à caractériser une population.
Et vous vouliez parler d'une autre recherche au sein du même service.
Absolument, c'était fantastique. C'est-à-dire qu'ils ont étudié les films de famille d'enfants qui se sont avérés autistes et l'ont comparé à d'autres qui n'étaient pas autistes. Et alors, ils ont découpé les interactions avec les enfants en petites séquences. Ils ont mesuré la distance entre les yeux des enfants et les yeux des parents, l'intensité du mamanet. Le mamanet, c'est la manière dont parlent les mamans. Voilà. Bonjour, tu vas bien?
Ah oui.
Voilà. On disait que c'était faut pas parler aux enfants comme des débiles. C'est pas vrai. Les enfants sont plus attentifs à cette manière de parler. Mais enfin voilà, tous ces éléments ont été compilés et ils sont aperçus qu'effectivement la distance était différente, les paramètres étaient différents. J'ai demandé au professeur Cohen si ça pouvait être un test de détection. Il me dit non. En fait, par contre, il m'a dit ça veut dire que le ressenti des parents, il est très important et que les médecins doivent en tenir compte.
Et on peut soutenir le laboratoire de recherche du professeur David Cohen à la Pitié-Salpêtrière. Et ben en donnant sur le site frm.org. Merci beaucoup Thierry Lhermitte de la Fondation pour la recherche médicale que l'on retrouve tous les mois dans Grand Bien vous fasse. Demain, on se demande qu'est-ce qu'une vie réussie avec le mensuel Sciences Humaines. Et vous, dites-nous ce qu'est une vie réussie. 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Nicolas Slimani et Florent Layani. À suivre Nagui et sa bande originale.